Même si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Alors, je ne suis pas certain de pouvoir aller jusqu'au bout de la salle avec le micro. Donc, je vais essayer, Michel.
Je voudrais vous demander ce que vous pensez de l'idée qui circule beaucoup en France, comme quoi l'Arabie Saoudite fait le lit des terroristes. Les salafistes, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'Arabie Saoudite, notamment? On parle du Qatar aussi, mais enfin, plus de l'Arabie Saoudite.
Okay. Alors, c'est évidemment la question qui... L'Arabie Saoudite, il y a d'abord deux volets dans votre question. Il y a d'abord le « est-ce qu'elle finance le terrorisme ?» À un certain moment, elle le finançait. Hein, c'est certain... Et là aussi, qu'est-ce qu'on appelle terrorisme, hein? Si on considère par exemple que Jabhat al-Nusra, qui est la branche armée d'Al-Qaïda en Syrie, c'est un groupe terroriste, ils ont été financés explicitement par le Qatar et l'Arabie Saoudite, ça c'est indiscutable. Un certain nombre de groupes salafistes en Libye, etc. L'autre volet, qui n'est pas celui du financement, mais qui est celui du conditionnement. Hein? Alors, le salafisme djihadiste se fonde sur quoi? Il se fonde sur ce que l'on appelle le wahhabisme, c'est-à-dire une version de l'islam qui est celle qui a été promue par le théologien la fin du XVIIIe siècle, Mohammed ibn Abdel Wahhab, et qui se fonde sur cette quatrième école juridique dont je vous ai parlé, les Hanbalites, littéralistes, véritablement où il n'y a pas d'interprétation possible. Si le Coran dit qu'il faut couper la main du voleur, il faut la couper au sens propre. Si le Coran dit qu'il faut que les femmes se voilent, il faut qu'elles ne laissent voir que les yeux, etc. Alors que dans la période du prophète lui-même, les femmes faisaient du commerce. Et comment peut-on faire du commerce si on ne voit pas le visage? Donc c'est des choses qui sont véritablement des interprétations, parfois même à contresens. Et cette interprétation wahhabiste, Abdel Wahhab a fait une alliance avec les Saouds qui ont été mis sur le trône d'Arabie Saoudite par l'Angleterre. Hein. C'est parce que les véritables héritiers de la descendance du prophète, c'est les Hachimites, c'est les Jordaniens. Les Saouds, c'est des intrus, c'est des gens qui ont été mis sur le trône, qui ont compris une alliance, qui ont compris que probablement qu'ils ont lu Gramsci à cette époque-là. Ils ont compris que pour avoir un groupe, il faut avoir les symboles du groupe. Hein, il faut avoir la tête des gens. Donc, ils se sont fait alliance avec Abdel Wahhab. Et dans les années 70-80, moi j'ai fait des salons du livre à Alger. Et je peux vous dire que l'Arabie Saoudite a inondé le marché du livre gratuitement. Des centaines de milliers de livres ont été distribués par l'Arabie Saoudite de prosélytisme wahhabite. Sans compter les prêcheurs sur la chaîne Al Jazeera du Qatar, sur la chaîne l'Arabiya, etc., qui ont formaté les esprits, véritablement. Et c'est en ce sens où on peut dire que l'Arabie Saoudite a la principale, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, etc., tous les pays wahhabites ont une responsabilité fondamentale sur les esprits de ces gens-là.
Une question toute simple, comment le prophète a-t-il eu le message?
Par l'ange Gabriel. Voilà, c'est très rapidement. Hein.
C'est l'ange Gabriel qui est apparu au prophète dans une grotte, qui s'appelait la grotte Hira, et qui lui a dit « lis ». Et le prophète a dit « je ne sais pas lire ». Il lui a dit « lis ». Il a dit « je ne sais pas lire ». Troisième fois « lis ». Je ne sais pas lire, et dit, lis au nom de ton Dieu qui a créé, etc. Et c'est le premier verset qui est apparu. C'est l'ange Gabriel, hein, et qui est venu à chaque fois lui répéter les versets.
Merci. Oui, j'ai une question par rapport à la mort du prophète. Comment s'est développé après l'islam? Une fois que le prophète est mort, comment la parole s'est répandue? Enfin, comment ça s'est passé, quoi?
Le message divin s'est arrêté par ce verset. Aujourd'hui, j'ai accompli pour vous votre religion, j'ai achevé ma bienfaisance à votre égard et je vous ai admis dans l'islam comme religion. C'est le verset qui ferme la révélation. Une fois que la révélation est fermée, ensuite, l'islam est devenu quelque chose de politique, c'est-à-dire qu'il y a eu la constitution de l'État islamique et puis, petit à petit, de l'empire islamique. C'est-à-dire qu'après, il y a eu de l'expansion de cet empire musulman par des conquêtes. Et quand on conquérait un peuple, c'était la jizya, c'est-à-dire il payait ou il se convertissait. Et en général, l'islam était une religion qui correspondait, si vous voulez, qui, je vois par rapport à ce qui s'est passé au Maghreb, qui correspondait beaucoup plus que les formes de paganisme, etc., qui éclataient les tribus, qui était une sorte de communautarisation de tribus éparses. Et l'islam est rudimentaire. C'est-à-dire que dans les formes... c'est pas comme dans le christianisme, par exemple, où il est d'abord nécessaire de croire à des miracles, aux miracles de la Sainte Trinité, etc. Dans l'islam, c'est d'abord quelque chose d'extrêmement simple. C'est-à-dire la shahada, puis les prières, etc. Donc c'est des pratiques simples. Et à partir de là, il y a cette expansion de l'Empire musulman.
Je voudrais poser la question suivante. Étant donné dans les pays musulmans et être musulman, je voudrais votre réponse par rapport à la question suivante. Est-ce que le fait que l'islam est la religion d'État dans les pays musulmans, que ça ne va pas aujourd'hui dans ces pays, dans les pays musulmans, comme mon pays, l'Algérie?
Est-ce que c'est...
Oui. Parce que l'islam, c'est la religion d'État dans les pays musulmans. Est-ce que c'est pour ça que ça ne va pas dans ces pays-là? Vous avez compris?
Moi, j'ai une question sur le voile. Qu'est-ce que dit le Coran vraiment sur le voile? Est-ce que c'est vraiment clair? Et puis, une deuxième question, j'en profite. Puisque vous avez parlé, vous avez évoqué le maraboutisme, quel est le lien entre le maraboutisme et l'islam, notamment dans les pays du Maghreb, le culte de l'ancien, qui apparemment, aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même, ça a marqué de manière importante l'Algérie.
Alors, premièrement, la religion d'État. Hein, est-ce que c'est parce que ces pays ont l'islam comme religion d'État, c'est pour ça que ça ne va pas? Peut-être, mais on ne peut pas refaire l'histoire. Hein. Vous savez, c'est la seule chose qu'on peut dire à ce sujet, c'est que l'instrumentalisation de la religion par ces régimes, par ces pays, ils ont voulu instrumentaliser la religion pour s'opposer aux religieux. Mais en général, ça se passe exactement comme dans tous les cas, c'est-à-dire que les gens préfèrent l'original à la copie. Et donc, ils préfèrent aller vers plus l'État veut se légitimer par la religion, plus les gens, plus ils vont légitimer le religieux. C'est une espèce de loi politique, hein, parce qu'ils sont moins crédibles et moins légitimes que les religieux. Donc l'instrumentalisation du religieux fait que ça ne va pas. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est parce que c'est l'islam? Je ne crois pas. Vous savez, moi j'ai une conviction depuis longtemps. Les religions dans l'abstrait comme ça, comme des idées platoniciennes, j'y crois pas beaucoup. Je crois surtout que la religion, c'est ce qu'on fait la pratique des hommes et des femmes. La religion, c'est les pratiques. Parce que si on voit la religion du XVIIe siècle, quelle qu'elle soit, et la religion d'aujourd'hui, c'est plus la même. Donc où est la vraie religion? Il n'y a pas de vraie religion. La vraie religion, c'est celle qui existe dans la pratique. Et donc, l'islam, est-ce que c'est l'islam qui est la cause du malheur des peuples musulmans? Je ne crois pas. Je crois plutôt que c'est les pratiques politiques des régimes de ces pays-là, notamment l'instrumentalisation du religieux, oui, vous avez raison de ce point de vue-là, qui fait qu'effectivement, ils font le malheur de leur peuple. Alors le voile. Le voile, le Coran est très, très, est très ambigu là-dessus. Hein. Le Coran dit, prophète, dis à tes femmes et aux femmes de tes compagnons de rabattre sur elles leur voile pour qu'on les reconnaisse. Alors pour qu'on les reconnaisse, c'est-à-dire pour qu'on ne leur porte pas de tort, pour qu'on ne les assimile pas aux autres, etc. Ce n'est pas le seul verset, il y en a un autre. Il y en a un autre que je ne connais pas par cœur. J'ai appris le Coran en arabe, pas en français. Il y a Ghalib Benchir qui est stupéfiant pour ça. Vous savez, celui qui présente l'émission du dimanche matin sur France 2, Culture d'Islam, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, qui est effrayant, mais il connaît l'islam, il connaît le Coran en arabe et en français, par cœur. C'est... Alors donc, peut-être que lui pourra citer les... Mais toujours est-il que, qu'est-ce qu'on entend par voile? Que doit-il recouvrir? C'est pas clair. C'est pas clair. Donc, ça n'est pas une prescription rigoureuse et précise. Hein? Les propos d'un homme que j'aime beaucoup, que je trouve très très pertinent et perspicace, c'est l'imam de Bordeaux, qui s'appelle Tarek Obro. Il a un livre très intéressant qui s'appelle « Un imam en colère », où il dit très bien, si mon souvenir est exact, qu'on peut le considérer comme une prescription religieuse, mais on peut le considérer aussi comme ne pas être une prescription religieuse. Ce n'est pas quelque chose de très clairement défini. Et donc, en tout cas, le voile qui consiste à se couvrir le visage et à se couvrir les mains, les yeux, etc., ça n'a jamais été une prescription religieuse musulmane. Ça, c'est absolument hors de question, parce que je vous le dis, dans la pratique même des femmes du temps du prophète, la veuve, la femme même du prophète était une commerçante, une riche caravanière, et elle pratiquait le commerce. Elle n'a jamais été condamnée ni par l'islam, ni par, enfin, elle n'a pas été condamnée par l'islam. Et peut-on pratiquer le commerce en se couvrant le visage? Je ne crois pas. Alors, dernière question, la question du maraboutisme. Je ne crois pas avoir utilisé le terme de maraboutisme. C'est un terme que je n'aime pas beaucoup. C'est un terme qui est la francisation du terme arabe marabat, qui vient de morabit arribat, c'est-à-dire arribat, c'est pas simplement le lien qui attache. Non, c'est pas simplement ça. Arribat, c'est un lieu où on se retrouve, où on se recueille, où on se très souvent d'ailleurs pour partir au combat. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Nord, au Maghreb? Avec la Reconquista en Espagne et le reflux des musulmans, la chute de Séville, Grenade et Cordoue, etc., quand les musulmans et les juifs se sont repliés sur le Maghreb, le soufisme andalou s'est implanté au Maroc. Mais avec la décadence et avec la dégradation,
Le soufisme s'est dégradé, lui aussi. Il s'est dégradé d'abord en un culte des saints, alors que les maîtres soufis ne se considéraient pas comme des saints qu'on adorait, mais plutôt comme des maîtres qu'on devait suivre. Il s'est détérioré dans un culte des saints, et ce culte des saints a fini par donner toutes les espèces de sorcellerie et de pratiques magiques. Et ça, à mon avis, c'est le résultat de la dégradation de toute la civilisation islamique d'une manière générale. Mais au début, quand vous voyez les saints des premiers siècles, par exemple du 11e, 12e siècle au Maghreb, c'est de grands maîtres spirituels. Je pense à quelqu'un que les gens de l'Ouest algérien connaissent bien, qui s'appelle Sidi Boumedien El Routi. Je connais ses textes poétiques. C'est d'une puissance spirituelle extraordinaire. Il y a tous les ingrédients de la pensée soufie, la présence-absence, l'élévation. C'est pas l'amour, évidemment. Hein, les maîtres soufis sont des chantres de l'amour sous toutes ses formes. Et on ne sait jamais d'ailleurs si c'est de l'amour religieux ou profane, hein, toujours cette ambiguïté entre les deux. Et puis petit à petit, avec la détérioration, la dégradation, la décadence, ça c'est là aussi, ça s'est transformé d'abord en un culte des saints, puis ensuite en une espèce d'adoration et de pratique de sorcellerie et de magie.
Merci. Oui, une question. La notion de démocratie est-elle évoquée dans le Coran ou dans les hadiths?
Alors, évidemment, la notion de démocratie n'est pas évoquée dans le Coran. Évidemment, c'est pas... La notion de démocratie est une notion, évidemment, de la cité grecque. Hein? Athènes, Demos, Kratos, etc. Mais vous savez très bien que cette époque, c'est une démocratie dont étaient exclus les esclaves et les femmes. Hein? Et que c'était une démocratie dans laquelle fonctionnait le tirage au sort. Donc ce n'est pas la démocratie au sens où nous l'entendons aujourd'hui ici, dans les pays dits démocratiques. Il y aurait toute une réflexion à avoir d'ailleurs sur les limites de la démocratie. Comme dit Étienne Balibar, les frontières de la démocratie. Alors maintenant, en islam. En islam, il y a quelque chose qui s'appelle shura. Amruhum shuratun bayna. C'est-à-dire la consultation. Hein? Qu'est-ce que c'est que la consultation? C'est en général la consultation des sages, des anciens, des plus vieux, des chefs. Donc, évidemment, une espèce de, comment dirais-je, pouvoir de caste. C'est les plus savants, c'est les plus puissants, c'est les plus anciens, c'est les plus sages, etc. C'est ça la choix. Mais la consultation est le principe de fonctionnement, normalement, d'un pouvoir islamique. C'est pas la démocratie. D'ailleurs, c'est quelque chose de propre. La démocratie, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, est un acquis de la modernité. Autrement dit, c'est un acquis de la philosophie des Lumières, de la Révolution française, etc. Mais on s'aperçoit aujourd'hui encore qu'elle a, elle aussi, sa crise, ses limites, ses frontières.
Oui, je voudrais revenir. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur, disons, le monde chiite?
parce que là vous avez mentionné donc comment cette scission, cette première scission dans l'islam a pu se faire, mais est-ce que vous pouvez préciser un peu des choses sur des particularités qu'ils ont, par exemple en termes de clergé, etc., ou bien en termes de pratique aussi, de pratique de la prière, ou enfin, des choses qui sont un peu différentes. Et puis bon, bah les comment je dirais, pas les pèlerinages, mais les Kerbela, enfin tout ça, toutes ces choses-là qui étaient interdites sous Saddam Hussein, enfin des choses qui sont assez marquées dans le monde chiite, quoi. Merci.
Moi, je voulais savoir comment était développé le concept de liberté dans le Coran.
Liberté.
Oui.
J'aurais souhaité savoir si la condition de la femme dans l'islam a évolué par rapport à la naissance de l'islam aujourd'hui. Est-ce que sa condition a évolué? Est-ce qu'elle était mieux considérée avant qu'aujourd'hui au XXIe siècle?
Ouais. Moi, il y a une question qui revient souvent en France, c'est justement comment est constitué le clergé islamique. Les séminaires existent pour l'Église catholique. Comment sont formés les imams et quels sont, par rapport aux écoles que vous avez dites, comment est-ce que ça se passe vraiment, et notamment pour l'islam de France? Vous avez parlé de l'imam de Bordeaux tout à l'heure. Qu'en est-il des grands imams, entre guillemets, en France?
Moi, j'avais deux questions concernant le Coran. Je n'ai pas lu le Coran, mais j'ai le sentiment que le Coran a plusieurs composantes, une composante plutôt spirituelle, et une composante qui peut être aussi celle de l'éducation des peuples. Par exemple, ne pas manger de porc, ça peut avoir une vertu de santé publique, par exemple. Et la deuxième question que je voulais poser, c'était, est-ce que pour les musulmans, il y a un paradis et un enfer? Donc, parce que, enfin, j'ai cru comprendre qu'on pouvait accéder au paradis en faisant des actes. Enfin, c'est ce que... on peut arriver dans un endroit où il y a des vierges. Enfin, voilà ce que j'ai entendu, ce qu'on peut lire, et en faisant notamment un acte de terrorisme, par exemple.
Le monde des chiites, madame, vous posez la question, mais je vois à votre sourire que vous en connaissez certainement autant, sinon plus que moi. Non, ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, le chiisme, comme le sunnisme, il y a des écoles. Il y a, comme je vous disais tout à l'heure, les septicémains, les duodécimains, etc., qu'il y a. Et la différence du sunnisme, c'est que le chiisme a un clergé, comme vous le savez très bien, les ayatollahs, les imams, les mollahs, etc., etc. Et qu'au-dessus de tout ça, c'est l'imam, comme l'imam Khomeini. Et ça, ça fait partie de ces élus, hein, qui arrivent à un certain degré d'élévation spirituelle et religieuse, et un sens politique extraordinaire. Quand Khomeini avait fait sa révolution en 1979, j'avais un copain philosophe qui me disait, je crois que Khomeini, à un moment, il s'est trompé. Au lieu de prendre le Coran, il a pris le livre de Lénine, Que faire, et il l'a appliqué. Donc un sens d'organisation. Et si on analyse bien le comportement politique de Khomeini, c'est un comportement nationaliste iranien. Très, très nationaliste iranien. Et qui a fait des fatwas. Parce que dans le chiisme, il y a cette idée que l'imam, non seulement il dit la loi, mais il peut dans certaines circonstances la faire. C'est en ce sens où, d'une certaine manière, il y a plus de spiritualité dans le monde chiite que dans le monde sunnite. Le monde sunnite, d'ailleurs, la preuve aujourd'hui, c'est que le monde sunnite se ritualise de plus en plus. Le monde sunnite, aujourd'hui, se réduit à halal, haram, licite, illicite. Il y a une... Alors, est-ce qu'il y a des différences quant à la pratique de la prière? J'ai pas l'impression. Hein. Non, c'est pas quelque chose de codifié. c'est pas vraiment quelque chose de codifié. Par contre, pour ce qui est des fêtes religieuses, ils ont dans le chiisme, il y a un martyr particulier parmi tous les martyrs, c'est le petit-fils du prophète, l'imam Hussein. L'imam Hussein qui a été assassiné à Karbala par l'un des descendants de Muawiya, des Omeyyades. Et Karbala est un lieu de pèlerinage aussi important pour les chiites que la Mecque ou Médine. Et ils ont cette procession. Alors, est-ce que c'est dans leur prescription religieuse ou est-ce que c'est le résultat de la tradition, simplement? Il faudrait peut-être approfondir un peu plus cette procession qui est en fait la reprise d'une fête juive, la fête de l'Ashura, et qui consiste à l'auto-martyrisation, l'auto-flagellation. Parce que la question du martyr est plus importante dans le chiisme. Dans l'islam, d'une manière générale, celui qui meurt au combat est considéré comme un martyr, comme un shahid. Celui qui meurt au combat, qu'on estime être un combat dans la voie de Dieu, fi sabilillah. Dans le chiisme, c'est plus que ça, c'est-à-dire toutes les formes de mort religieuse peuvent être considérées comme... Et donc, il y a ce sentiment de sacrifice. Quelqu'un qui est un sociologue franco-iranien qui s'appelle Farhat Khosrokhavar, qui est le plus grand spécialiste français de l'islam des prisons, hein, qui a fait de bonnes enquêtes sur l'islam des prisons, avait commencé par étudier le sentiment de martyr chez les jeunes iraniens pendant la guerre Iran-Irak. Il avait montré comment, en fait, l'Iran s'appuyait justement sur ce sentiment de désir de sacrifice interne au chiisme, qui est propre au chiisme, pour mobiliser la jeunesse dans cette guerre. Alors, la question de la liberté en islam. Il y a une grande controverse dans la théologie musulmane entre ce qui était... Le Coran n'est pas explicite là-dessus. Hein. Donc on ne s'arrête pas au Coran pour analyser la question de la liberté. On voit dans la jurisprudence ou dans la théologie musulmane, et dans la théologie musulmane, dans la grande période de la théologie musulmane qui s'appelle Ilm al-Kalam, là où ils étaient énormément influencés par les écoles religieuses, les écoles philosophiques grecques, stoïcisme, platonisme, aristotélisme, etc., il y avait une controverse entre ceux qui croyaient à la prédestination, qui était un peu à l'image des stoïciens, c'est que la véritable liberté consiste à accepter notre destin. Et que Dieu est tout puissant. Et c'est lui qui décide. Et c'est lui qui dicte la vie des hommes. Donc les partisans d'une prédestination et d'une impuissance de l'homme devant la toute-puissance de Dieu. Et vous avez les rationalistes dont je parlais tout à l'heure, qui sont les Mu'tazila. Mu'tazila, c'est littéralement, étymologiquement, ceux qui se mettent à part. Hein? Ils se distinguent, ils se mettent à part. Ya'taziloun, ils se mettent à part. Ils se sont mis à part parce que ça a été des gens qui ont été d'un rationalisme quasiment outrancier. C'est-à-dire qu'ils disaient, si Dieu décide... alors à ce moment-là, il n'y a plus de jugement dernier. Si l'homme n'est pas libre, il n'est pas responsable de ses actes. Pourquoi est-il jugé ? Donc, pour les Mu'tazila, l'homme est libre. C'est seulement l'omniscience de Dieu qui fait qu'il sait. Mais ce n'est pas lui qui décide. C'est l'individu qui est libre. Et vous avez une troisième école qui s'appelle l'école Ash'arit, qui va elle aussi dériver vers une radicalisation, enfin un rétrécissement, et qui va couper la poire en deux, qui va dire effectivement Dieu décide mais l'homme ne sait pas. Donc, à son échelle et à son niveau, l'homme est libre. Mais en réalité, c'est Dieu qui décide. C'est des controverses philosophiques qui sont véritablement comme on le disait à l'époque, des querelles byzantines. Enfin, c'est la question de la liberté. Je vous dis donc que dans le Coran, elle n'est pas évoquée d'une manière explicite. Elle a été le sujet de controverses dans la théologie musulmane. La femme en islam. Alors, l'islam s'enorgueillit du fait que, avant l'apparition de l'islam, les tribus arabes enterraient les femmes. Hein? Et par rapport à cette situation-là, en effet, l'islam a représenté un progrès. Il a quasiment légalisé le travail. La participation des femmes au commerce, au travail qui se faisait à l'époque. Mais d'un autre côté, l'islam n'est pas en avance sur son temps. C'est-à-dire, il est l'enfant de son siècle et de sa conjoncture. C'est-à-dire qu'il a admis la polygamie en la sujettissant à l'équité. Hein? Si vous craignez de ne pas être équitable, alors une seule. Mais il a légalisé l'inégalité en matière d'héritage. C'est-à-dire que pour l'héritage, selon la loi, selon la norme islamique, une femme a la moitié de la part d'un homme. Donc de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui... Alors, est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis ? Ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Une seule règle n'a pas été dépassée, n'a été dépassée par aucun pays musulman. C'est l'interdiction à une musulmane d'épouser un non-musulman. Ça, c'était à l'époque l'idée que on pouvait amener une femme avec ce qu'elle amenait avec elle dans la communauté, mais on ne pouvait pas laisser une femme musulmane aller donner des non-musulmans. Hein? Parce que, comme le dit Françoise Héritier, l'avantage ou le désavantage d'une femme, c'est qu'elle peut donner naissance à l'autre sexe. C'est-à-dire une femme peut produire des hommes. Et oui. Et une musulmane, il ne faut pas qu'elle aille produire des non-musulmans. Donc cette règle-là, même un pays aussi avancé que la Tunisie, n'a pas à dépasser cette règle encore. Parce qu'on peut très facilement s'en accommoder. Hein. Une femme peut faire comme si son mari disait « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah » et puis c'est de la tricherie. Et ça reste une manière d'inégalité. Mais par rapport à l'héritage, je ne sais pas, je crois qu'en Tunisie, ils ont dépassé, je ne suis pas sûr. Mais les évolutions en matière de situation, de statut des femmes dans les pays musulmans ne dépendent pas de l'islam, ils dépendent de l'interprétation de l'islam, donc des formes politiques que revêt le pouvoir. Alors, le clergé en islam. Il n'y a pas de clergé dans l'islam sunnite. J'ai dit qu'en islam chiite, il y avait un clergé. En islam sunnite, il n'y a pas de clergé. Mais il y a quelque chose qui représente l'autorité. C'est ce qu'on appelle les oulémas. T'as les savants. Mais on peut ne pas les écouter. C'est pas une juridiction formelle et réglementaire, si vous voulez. C'est-à-dire que la mosquée d'Al-Azhar, par exemple, peut dire ceci est halal ou ceci est haram. N'importe quel salafiste de n'importe quel coin du monde peut dire, moi je m'en fous. C'est pas lui, je l'écoute pas. C'est pas comme dans l'église romaine où il y a une structure, il y a une hiérarchie. Dans l'islam sunnite, il n'y a pas. Sauf que, je vous dis, c'est les oulémas. Les oulémas, c'est le pluriel de alim, savant. C'est les savants, mais les savants en sciences religieuses, hein. Pas les savants en physique ou en géographie. Les savants, les oulémas, c'est eux qui dictent la loi. À la limite, libre aux individus de la suivre ou de ne pas la suivre. Prenez par exemple aujourd'hui, l'islam mondialisé, véritablement mondialisé, c'est l'islam wahhabite de l'Arabie Saoudite. En Algérie, qui est un pays où l'islam est religion d'État, vous avez des règles qui sont édictées par l'institution officielle qui est le ministère des Affaires religieuses. La majorité des jeunes musulmans algériens ne les suivent pas. Parce qu'ils suivent l'imam sur Internet, l'Albanie, ou je ne sais pas qui leur dit ceci. C'est à peu près ça la question. Alors, quelqu'un m'a posé une question sur le Coran. Je ne me souviens pas de la forme de la question.
Il y a un côté spirituel.
Ah oui. Vous m'avez dit, il y a un côté spirituel et un côté plutôt d'organisation de la vie. Oui, j'en avais parlé quand j'ai parlé du Coran. J'ai dit que, en général, la distinction se fait à partir des sourates mécoises, c'est-à-dire celles qui ont été révélées à la période de la Mecque, et les sourates médinoises, c'est-à-dire celles qui ont été révélées du temps de Médine. Du temps de la Mecque, c'était le prosélytisme, c'était essayer de convaincre les gens. Donc, c'était des versets et des sourates qui étaient beaucoup plus spirituels, en effet. Beaucoup plus questions de théologie, de religion, même à la limite des questions métaphysiques, etc. Et quand il s'est agi d'organiser la communauté musulmane et de construire l'État musulman, alors, à ce moment-là, des versets beaucoup plus presque profanes, si vous voulez, hein, des versets d'organisation Et en effet, il y a même des gens comme Youssef Sadir, qui est un philosophe tunisien, qui dit « On n'a qu'à se débarrasser des sourates médinoises et ne retenir que le côté spirituel du Coran. » Mais enfin, bon, ça, c'est aller vite en besoin. C'était ça votre question.
Oui, est-ce qu'il y a un paradis et un enfer?
Ah oui, bien sûr, bien évidemment qu'il y a un paradis et un enfer. Et s'il n'y a pas de sanctions, comment voulez-vous que les gens suivent? Si vous leur dites, voilà, ça c'est bien et ça c'est mal, mais vous risquez rien en faisant le mal, ça ne marche pas. Maintenant, cette histoire des 70 vierges, etc., je vais vous faire rire un tout petit peu. Il y a quelqu'un qui a dit, attendez, on s'est trompé. C'est pas 70 vierges qui vont avoir là-bas, c'est une vierge de 70 ans. Non, plus sérieusement, ça n'a jamais existé, cette histoire de 70 vierges. Mais Dieu récompense les croyants, les gens de bien, etc., par un paradis dans lequel il y a en effet des houriettes. Hein, et paradoxalement, il y aura quelque chose qui est interdit ici-bas, c'est-à-dire du vin. C'est bizarre quand même. Hein, il y a quelque chose qui sera au paradis et qui est interdit sur terre. Bon. Mais ça fait partie des mystères de la religion, ça. Hein, de toute façon. Il n'y a pas de religion sans mystère. Une religion, par définition, c'est l'impossible possible. C'est-à-dire la possibilité de l'impossible. C'est ça une religion. Sans mystère, il n'y a pas de religion. Une religion, ce n'est pas rationnel. Donc, en effet, il y a, quand les individus meurent, s'ils ont été musulmans véritable, c'est-à-dire par conviction et par foi. Le prophète intercède en leur faveur. Et après avoir payé les actes qu'ils ont commis, ils vont au paradis. Les non-musulmans, le prophète ne fait rien pour eux. Les gens du livre, alors il y a certaines versions qui disent que les gens du livre peuvent, eux aussi, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, peuvent aussi avoir accès au paradis. Mais aujourd'hui, la ritualisation de l'islam fait que, et j'ai eu un débat là, il y a quelque temps avec mon frère qui est un homme extrêmement pieux. Les gens, par exemple, se pressent pour faire une bonne action. C'est-à-dire, vous êtes dans un bus, vous êtes une personne âgée, un individu se lève pour vous laisser la place. Si vous refusez de vous asseoir, il va vous en vouloir. Parce que vous l'avez empêché d'avoir une bonne action. Et si vous l'empêchez d'avoir une bonne action, ça veut dire que vous lui enlevez une récompense. Et c'est du donnant-donnant. Dans l'esprit des gens aujourd'hui, c'est une catastrophe. L'islam est réduit, il faut faire du bien parce que Dieu va te récompenser. Et c'est le principe des bienfaisances de l'Église pendant le Moyen-Âge. C'est exactement ça. Les hasanats, il faut récolter des hasanats.
Je crois que c'était ça les questions.
Ouais.
On va peut-être...
Oui. C'est un tout petit peu... Est-ce que...
Oui, vous avez mentionné donc les gens du livre. Est-ce que vous pouvez juste un petit peu parler, pas pour la question du paradis, mais donc les ennemis, leur statut dans la cité en islam, on va dire. Pour bien montrer que le baratin qui est de dire, enfin pour tout ce qui se passe au Moyen-Orient avec les barbus là, et compagnie, qui disent qu'on va tuer les mécréants, en fait, quand on connaît bien le statut des ennemis en islam, le chrétien ou le juif n'est pas un mécréant.
Je vais dire même plus. C'est vraiment, vous avez très très bien fait.
Alors, dans la religion musulmane, dans la cité islamique, le chrétien ou le juif sont ce que l'on appelle des dhimmi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dhimmi? Dhimmi, ça veut dire protégé. C'est-à-dire qu'en échange d'une taxe, ils sont protégés par le pouvoir. Ils payent une taxe, une dîme, hein, une dîme, et ils sont protégés. Ils sont protégés. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il leur arrive du mal. Et l'émir Abdelkader, qui a fait la guerre à la France en 1830, quand la France a envahi ce qui allait devenir l'Algérie, l'émir Abdelkader a fait la guerre, il a fait la résistance, il a essayé de regrouper les tribus, etc. Et ensuite, il s'est rendu impuissant, il a perdu, il a été interné dans un château en France, je ne me souviens plus du nom, et puis ensuite, il a été exilé en Syrie. Hein? Le château de...
Amboise.
Le château d'Amboise, merci. Et quand il était en Syrie, eh bien, il a protégé les chrétiens de Syrie contre des expéditions qui voulaient les exterminer. Plus que ça, en principe, le statut de dhimmi empêche d'accéder à un certain nombre de fonctions élevées. Eh bien, en Andalousie, il y a eu des ministres juifs. C'est-à-dire, malgré le statut de dhimmi, il y a eu des ministres juifs. Bourguiba, président de la Tunisie, dans son gouvernement, a mis des ministres juifs. Au Maroc, l'un des principaux conseillers du roi, c'est le père de l'actuel ministre de la Culture, ici en France, Azoulay. Ouais. Au lendemain de la révolution tunisienne en 2011, il y a eu une instance de préparation de la constitution, de la constituante, hein, ou de surveillance des acquis de la révolution, je sais pas. Eh bien, l'une des membres de cette instance est une historienne juive franco-tunisienne, c'est-à-dire juive et double nationalité. Donc, cette espèce de... Je ne sais même pas comment les qualifier, hein, qui disent qu'il faut tuer les chrétiens, il faut tuer les juifs, etc. Ça ne peut pas être compris à l'intérieur d'une religion, quelle qu'elle soit. Absolument aucune religion ne peut admettre ce type de... Et historiquement, l'islam n'a jamais pu admettre ce genre de choses.
Bravo.
Eh bien, merci.
Donc, merci à Fid.